بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue le hadith de Boulour al-Maram. Il dit, donc c'est le hadith pour celui qui veut suivre, 1268. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. Le hadith ici dit la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents et la colère d'Allah est dans la colère des parents. Donc ce hadith est dans les sunan de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah. Donc il dit dans l'explication ما يقرر من الحديث أولا حق الوالدين كبير فقد قرن تبارك وتعالى حقهم بحقهما فقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Donc ils disent ici le droit des parents, c'est un grand droit, et Allah il a cité en même temps son droit et le droit des parents, et il a dit تعالى remercie-moi ou sois reconnaissant envers moi ainsi que envers tes parents. Et dans un autre verset, il a dit « Ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et la bienfaisance envers les parents. » وفي هذا الحديث جعل الله رضاه من رضائهما وسخطه من سخطهما فمن أرضاهما فقد أرضى الله ومن أسخطهما فقد أسخط الله. Donc dans ce hadith, Allah il a déclaré que sa satisfaction elle était dans la satisfaction des parents, et que sa colère était dans la colère des parents. Donc celui qui satisfait ses parents, il a satisfait Allah, et celui qui les met en colère, il a mis Allah en colère. فيه وجوب إرضائهما وتحريم إسخاطهما ذلك أن إرضاءهما من الواجبات وإسخاطهما من المحرمات. Donc il y a dans ce hadith l'obligation de les satisfaire et l'interdiction haram, donc tahrim, de les mettre en colère. فيه وجوب النصوص في وجوب بر الوالدين وتحريم عقوقهما كثيرة جدا ومنها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال راغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. Donc il dit, il y a beaucoup de textes à ce sujet, notamment le hadith qui est dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rahima Anf. Donc ça c'est une expression arabe. C'est comme s'il disait, c'est comme une dua contre une personne. Et il l'a dit trois fois. Et il a dit donc que cette dua, entre guillemets, elle était contre celui qui vit alors que ses parents aussi sont vivants et ils ont atteint la vieillesse, l'un des deux ou tous les deux, et il n'entre pas au paradis. C'est-à-dire celui qui voit grandir ses parents jusqu'à ce qu'ils atteignent la vieillesse, et pourtant ils ne rentrent pas au paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait ses parents ont vécu longtemps, donc il a eu le temps d'être bon envers eux, et donc ça aurait été une cause pour entrer au paradis, et lui il ne l'a pas fait, et donc il ne rentre pas au paradis. Donc le prophète il a fait une dua trois fois contre cette personne.
وجاء في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله.
Et dans les deux sahih, Ibn Mas'ud dit, radiallahu anhu, j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant quelle action est la plus aimée d'Allah. Il lui a répondu la prière à son heure. Ensuite il a dit ensuite laquelle? Il a dit le bien ou la bonté envers les parents, et ensuite il a répondu la guerre dans le sentier d'Allah.
وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين.
Et toujours dans les deux صحيح, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit vous informerai-je des plus grands des péchés? Il a dit c'est le fait d'associer Allah et la désobéissance aux parents.
وطاعة الوالدين إنما تكون بالمعروف فلا طاعة لهما في معصية الله تعالى فقد قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما.
Et l'obéissance aux parents elle est dans le bien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les obéir si c'est pour un péché. Et Allah a dit si ils te combattent, c'est-à-dire s'ils font un effort vis-à-vis de toi et ils insistent pour que tu m'associes ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas. C'est-à-dire l'obéissance, bien sûr, des parents, elle est conditionnée par le fait qu'elle soit en accord avec l'obéissance d'Allah et du messager, sallallahu alayhi wa sallam. وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Et dans le hadith il a dit il n'y a pas d'obéissance envers une créature en désobéissant au créateur. قال صديق حسن في تفسيره وجملة هذا الباب أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب معصية ولا ترك فريضة على الأعيان وتلزم طاعتهما في المباحات. Ici est une parole de صديق حسن. Donc à ma connaissance, Siddiq Hassan, c'est un savant de l'Inde, un muhaddith de l'Inde, donc il a dit ici que l'obéissance aux parents, on ne doit pas la respecter si c'est pour faire un péché ou si c'est pour délaisser une obligation individuelle. Mais il faut leur obéir, et il est obligatoire de leur obéir dans ce qui concerne les choses qui sont licites. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَعِ وَلَا طَاعَةَ لِلْوَالِدَيْنِ فِي تَرْكِ فَرِيضَةٍ كَتَعَلُّمِ وَاجِبٍ عَلَيْهِ وَمَا يَقُومُ بِهِ دِينُهُ من طهارة وصلاة وصيام ونحو ذلك وإن لم يحصل ذلك ببلده فله السفر لطلبه بلا إذنهما لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Donc là ici c'est une parole qui est dans Sharh al-Iqna', donc ça ce sont des livres dans l'école Hanbalit, et ça va répondre à beaucoup de frères qui posent beaucoup cette question. Il dit ici il n'y a pas d'obéissance aux parents dans le fait de délaisser une obligation, comme, donc là c'est un exemple d'obligation, il dit comme le fait d'apprendre quelque chose qui lui est obligatoire et par quoi sa religion par quoi persiste sa religion, comme la purification, la prière, le jeûne et ce qui ressemble à ça. Et si ça n'est pas possible dans son pays, alors qu'il voyage pour demander ça, c'est-à-dire pour rechercher cette science obligatoire, sans leur demander, c'est-à-dire aux parents, sans leur demander leur permission, puisqu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. C'est-à-dire, là, il parle pour ce qui est l'ilm al-wajib, la science qui est obligatoire à chaque personne. Si une personne, elle ne peut pas l'acquérir dans son pays, alors elle doit partir. Elle doit aller là où la science, elle est. Et c'est obligatoire, même si ses parents ne sont pas d'accord. Par contre, si c'est juste pour une science, c'est-à-dire toutes les sciences qui lui sont obligatoires, elle peut les apprendre, c'est-à-dire le tawhid, comment faire sa prière, etc. Ça, elle peut l'apprendre chez elle et dans son pays. Et ses parents, ils ne veulent pas qu'ils sortent, alors là, il ne sort pas. أما بخصوص طاعة الوالدين في المباحات فقال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ينتفع به الأبوان ولا يتضرر هو بطاعتهما فيه قسمان قسم يضرهما تركه فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه وقسم ينتفعان به ولا يضرهم فتجب طاعتهما فيه. Là, il dit par rapport à ce qui est l'obéissance aux parents dans ce qui est licite. Là, il cite une parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui dit ce qui est utile aux parents et qui n'est pas nuisible à la personne. Alors, dans le fait de leur obéir dans ça, il y a deux, ça se divise en deux catégories. Donc là, retenez bien qu'il a dit dans ce qui est utile aux parents et qui ne lui est pas nuisible à lui. Donc, on ne parle pas de ce qui peut être nuisible à la personne. Là, elle n'a pas obéir à ses parents dans ce qui peut lui revenir en étant nuisible dans sa religion ou sa santé ou ses biens. Donc là, il parle de ce qui est utile aux parents et pas nuisible à la personne. Il dit donc, ce qui s'il le délaisse, serait nuisible aux parents. Il dit donc là, il lui est obligatoire sans aucun doute de leur obéir dedans. C'est-à-dire, s'ils lui disent « fais telle chose », et une chose qui lui est pas nuisible, et cette chose, s'il la fait pas, ça va nuire à ses parents. Donc là, il lui est obligatoire sans aucun doute de le faire. Et l'autre, c'est pas que ça leur est pas nuisible, mais carrément ça leur est utile. Et ça n'est pas nuisible, pour lui-même. Donc pareil, il faut qu'il leur obéisse dans cela. Donc c'est-à-dire, en tout cas, quand ils disent fais ça, et toi ça te nuit pas, et cette chose, soit elle leur nuit pas à eux, ou alors le fait que tu la fasses pas ça leur nuit, ou alors le fait que tu la fasses ça leur est utile, alors il était obligatoire de le faire, si ça ne te nuit pas à toi-même. وقال في من تأمره أمه بطلاق امرأته قال لا يحل له أن يطلقها بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها. Donc regardez ici, Ibn Taymiyyah toujours il dit à propos d'une femme qui ordonne à son fils de divorcer sa femme, ou plutôt à propos d'un homme dont la mère lui dit divorce ta femme. Il dit il ne lui est pas licite de divorcer sa femme. Mais au contraire, il doit donc respecter sa mère et être bon envers elle. Mais le fait de divorcer sa femme ne fait pas partie de la bonté envers sa mère.
قال في الآداب الكبرى فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب ذكره أكثر الأصحاب.
Et dans l'Adab al-Kubra, donc il a dit, donc là c'est un autre savant qu'il cite ici, si son père, donc là on parle plus de la mère mais du père, si son père lui ordonne de divorcer sa femme, il ne lui est pas obligatoire d'écouter son père. C'est ce que la plupart des ashab, c'est-à-dire les compagnons, entre guillemets, ou les gens du madhab de l'imam Ahmed ont dit.
وسأل رجل الإمام أحمد فقال إن أبي أمرني أن أطلق امرأتي فقال لا تطلقها قال الرجل أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته قال حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه.
Donc un homme a questionné l'imam Ahmed rahimahullah, il lui a dit si mon père m'ordonne de divorcer ma femme, et l'imam Ahmed lui a répondu tu ne la divorces pas. Et l'homme il lui a répondu, n'est-ce pas que Omar a ordonné son fils Abdullah de divorcer sa femme? Et l'imam Ahmed il lui a dit, oui mais ton père il n'est pas comme Omar. C'est-à-dire si Omar, ce qu'on peut comprendre de cette parole, c'est que si Omar il ordonne à Abdullah ibn Omar de divorcer sa femme, c'est qu'il y a une bonne raison. Et on sait que Omar il ne parle que selon ce qui satisfait Allah Azza wa Jal. Alors que ce n'est pas le cas de tous les parents. Donc il lui a dit, tu ne la divorces pas si ton père il te dit de la divorcer. Et l'autre, quand il lui a dit, n'est-ce pas que Omar il a ordonné à son fils Abdullah de divorcer sa femme, il lui a dit, ben, quand ton père il sera comme Omar, en fait la signification, il lui dit, hatta yakoun abuka ka Omar. Donc c'est-à-dire, c'est comme s'il lui avait dit, le jour où ton père il sera comme Omar et qu'il te dit ça, ben tu divorceras ta femme. Donc le hadith suivant, il dit, wa an Anas radiallahu an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala, والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه متفق عليه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui a mon âme dans sa main, l'un d'entre vous n'est pas croyant, ou plutôt le serviteur ne sera pas croyant, tant qu'il n'aime pas pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Ça c'est dans les deux sahih. Donc il dit dans le commentaire, حق الجار على جاره كبير جدا. قال تعالى قال تعالى والجار الجنب. وجاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Donc il dit le droit du voisin c'est un très grand droit, et Allah a cité le voisin en disant والجار الجنب dans le verset de la sourate An-Nisa où il a cité les différentes personnes envers qui on doit être bienfaisant. Et dans les deux sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith d'Aïcha, il a dit, Jibril n'a cessé de m'ordonner yusini biljar, c'est-à-dire il me recommande, il me conseille la bienfaisance envers le voisin, à tel point que j'ai pensé qu'il allait le mettre parmi les gens qui héritent de la personne. C'est-à-dire à tel point que le prophète, Jibril a insisté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pensé que bientôt Jibril allait lui dire, le voisin, il hérite de son voisin.
والنصوص في الباب انا جيبليسي يجي وجاء في مسلم من حديث ابي شريح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره.
اذا صحيح مسلم الحديث ديسي celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il soit bienfaisant envers son voisin.
والنصوص في الباب كثيره. حديث الباب صريح في نفي الإيمان عن العبد الذي لا يحب لجاره من حصول الخير وبعد الشر ما يحب لنفسه.
Donc il dit le hadith il est clair pour renier la foi, c'est-à-dire il renie clairement la foi de celui qui n'aime pas pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Et ce qu'il aime pour lui-même c'est le bien ou alors le fait que le mal soit éloigné de la personne.
أول العلماء نفي الإيمان هنا بأن المراد به نفي كماله الواجب إذ قد علم من قواعد الشريعة أن من لم يتصف بذلك لا يخرج من الإيمان.
Il dit les savants ont interprété la négation de la foi dans ce hadith quand il a dit il ne croira pas ou il n'aura pas la foi, dans le sens où c'est une négation de la foi complète et de la foi obligatoire et non pas de la base de la foi. C'est-à-dire ici, c'est comme s'il disait, nul d'entre vous n'aura la foi complète. nul d'entre vous n'aura atteint la foi obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de foi. Il peut avoir une foi suffisante pour être un musulman, mais il n'a pas atteint le stade de mu'min haqiqi, c'est-à-dire de vrai croyant, entre guillemets. Il n'a pas atteint l'iman al-kamil ou l'iman al-wajib, c'est-à-dire la foi complète. Il dit, puisqu'il est connu dans les règles de la religion, que celui qui n'a pas cette caractéristique, c'est-à-dire celle qui est citée dans le hadith, il ne sort pas de l'islam. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'aimerait pas pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même, ça en fait pas un kafir. Ça, c'est connu sans divergence entre les ulama. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il veut dire le hadith ? Il veut dire qu'il n'a pas la foi complète. Il a de la foi qui lui permet d'être musulman, mais il n'a pas atteint le stade de l'iman. قال العلماء المراد من الطاعات وأعمال الخير والأمور المباحة وهذا فيه صعوبة على النفوس الشحيحة ولكنه سهل على ذوي القلوب السليمة. Les ulama ont dit ce qui est voulu dans le hadith quand il dit ce qu'il aime pour lui-même, c'est-à-dire qu'il aime les obéissances à Allah et les actes de bien et les choses licites. Tout ce qu'il aime de tout ça pour lui-même, eh bien, il faut qu'il l'aime pour autrui. Et ça, c'est difficile pour les gens qui ont des âmes avares. Mais c'est facile pour celui qui a un cœur saint. وقال الشيخ العسافي مختصر الإحياء وأما حقوق الجار فالجوار يقتدي حقا وراء كف الأذى فقط. Il dit ici, c'est une parole d'un cheikh qui dit les droits du voisin, elles comportent des droits, c'est au-delà de simplement ne pas lui faire du mal. Il y a plus que ça. Il dit bal ihtimal al-adha. Il dit mais aussi il faut supporter sa nuisance et son mal. والرفق وابتداء الخير. Et la douceur et le fait de lui faire le bien en premier. فيبدأه بالسلام ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ويهنئه في الفرح. Il dit donc, il lui dit salam par exemple en premier, ça fait partie de l'ihsan. Il le visite quand il est malade, il lui dit ta'ziya quand il a un mort dans sa famille, il le félicite quand il lui arrive quelque chose qui le rend fil farah, c'est-à-dire dans les bonnes occasions. ويصفح عن زلاته إلى إكسكوز pour ses erreurs ولا يطلع إلى داره ولا يضيقه في صب الماء في ميزابه. Par exemple, donc il ne cherche pas à regarder dans sa maison. ولا يضيقه في صب الماء في ميزابه. C'est-à-dire, il ne verse pas l'eau. Bon, ça c'est pour les maisons d'avant, dans son comment on appelle ça, la gouttière, dans sa gouttière. ولا في طرح التراب في فنائه ولا يتبعه النظر فيما يحمله الى داره. Aussi par exemple il ne le regarde pas quand il est en train de ramener des choses à sa maison. Il regarde pas qu'est-ce qu'il est en train de ramener comme tout le monde fait maintenant. ويستر ما ينكشف من عوراته. Et il cache ce qui pourrait être dévoilé de ses secrets. ولا يتسمع على كلامه. Il ne cherche pas à écouter ses paroles. ويغض طرفه عن حرمه. Et il baisse le regard sur ce qui est sacré et respecté chez cette personne, c'est-à-dire sa femme, ses filles par exemple. وَيُلَاحِذُ حَوَائِجَ أَهْلِهِ تَغَابَ. Et il essaie de subvenir aux besoins de son voisin quand il n'est pas là. Et de sa famille, c'est-à-dire quand lui il n'est pas là. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْبُلُوغِ الْجَارُ عَمٌّ لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ وَالصَّدِيقِ وَالْعَدُوِّ وَالْقَرِيبِ وَالْأَجْنَبِي. Donc il dit dans شرح البلوغ, là, je pense qu'il doit parler de Subul Salam, de l'Amir al-San'ani, rahimahullah. Il dit, le voisin ici, c'est général, ça englobe le musulman et le mécréant, le pervers et le fasiq, celui qui désobéit à Allah, l'ami et l'ennemi, le proche et le lointain et l'étranger. فَمَنْ اِجْتَمَعَتْ فِيهِ الصِّفَاتُ الْمُوْجِبَةُ لِمَحَبَّةِ الْخَيْرِ لَهُ فَهُوَ فِي أَعْلَى الْمَرَاتِبِ. Donc il dit, celui qui regroupe toutes les caractéristiques qui poussent la personne à aimer le bien pour lui, c'est-à-dire il est musulman, donc c'est ton frère, et en plus il est ton voisin, et en plus il est ton proche, par exemple, celui-là il est au plus haut degré. وَمَنْ كَانَ فِيهِ أَكْفَرُهَا فَهُوَ لَاحِقٌ بِهِ. Et celui qui a la plupart de ces caractéristiques, il est proche de celui-là. وَهَلُمَّ جَرَّ إِلَى الْخَصْلَةِ الْوَاحِدَةِ. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la personne n'ait qu'une seule de ces caractéristiques. فيعطى كل ذي حق بحسب حاله. Donc chacun, on doit lui donner son droit selon sa situation. C'est-à-dire, le plus haut degré, par exemple, c'est celui qui est. Donc là, c'est pas dans le livre, ça c'est pour expliquer. Il dit, c'est par exemple le fait, celui qui serait musulman, donc il a le droit du musulman, et il est ton proche par la famille, donc il a le droit de la famille, et il est ton voisin, donc il a le proche du voisin. Donc s'il a tout ça, imaginons en plus il est orphelin par exemple. Donc il réunit plus de caractéristiques que celui qui serait simplement ton voisin, mais il n'est pas musulman, il n'est pas... Celui-là, il a un droit à la bienfaisance, etc., mais pas autant que ce que l'autre, qui a toutes les caractéristiques. C'est ça qu'il veut dire ici. وجاء في الطبراني من حديث جابر الجار الكافر له حق الجوار والجار المسلم له مع الجوار حق الإسلام والجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق. Donc il cite ici une parole de Jabir radiallahu anhu. Il dit min hadith Jabir. Donc je ne sais pas s'il veut dire est-ce que c'est la parole de Jabir, puisque les salafis ont appliqué le mot hadith même aux paroles des sahaba, ou est-ce qu'il veut dire le hadith de Jabir, c'est-à-dire qu'a rapporté Jabir. Je ne sais pas, il dit, en tout cas, le hadith il dit, le voisin mécréant a le droit du voisin, et le voisin musulman a le droit, avec son droit de voisinage, il a le droit de l'islam. Et le voisin musulman proche a trois droits, c'est-à-dire en plus il a les liens de parenté. Donc At-Tabarani, ici il ne cite pas le degré du hadith, At-Tabarani en fait il a trois masanid. Donc là, Al-Tabarani, c'est un muhaddith qui a, c'est-à-dire il a écrit des livres de hadith, ils ne sont pas faits sur des chapitres, comme As-Sunan ou alors Al-Jawami'. Il a fait des livres de hadith qui sont compilés par rapport à ses shuyukh. En fait, c'est des ma'ajim, Al-Mu'jam al-Kabir, Al-Mu'jam al-Awsat. Donc en fait, il met, comment, si vous lisez ce livre, c'est classé par shir. C'est-à-dire le shir de qui il a entendu des hadiths, il va mettre tous ces hadiths dans un seul chapitre. Donc ça peut être des hadiths sur tous les domaines de la religion, et ainsi de suite. Et il classe ses shuyukh comme ça. Donc il y a Amar, il nous dit, barakallahu fik, il dit en fait le hadith il est du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est daif. Barakallahu fik. Donc voilà pour At-Tabarani, c'est le ma'ajib. C'est comme ça qu'il faut les... C'est comme ça, pardon, qu'il a suivi. C'est, quand vous lisez dans le Mu'jam, un Mu'jam, c'est ça. C'est quelqu'un, ou alors Kutub al-Mashiyakha, c'est-à-dire, il fait un livre de hadith classé par Shuyur. Donc chaque sheikh, il a sa partie du livre, et il met les hadiths qu'il a entendus de ce sheikh-là. Donc c'est quoi la différence avec un Musnad? On avait déjà expliqué. Par chapitre, par bab, genre le wodo, tout ça? Non, justement, non. Non, le mousnad c'est classé par sahabi. Comme le mousnad de l'imam Ahmed, il commence par Abu Bakr al-Siddiq et il met tous les hadiths d'Abu Bakr al-Siddiq sans distinction. Et un jami', c'est quoi un jami'? Un jami', c'est général. Il y a tous les chapitres de la religion, la aqida. Il y a quoi, par exemple, comme jami', il y a quoi? Enfin, les jami' qui sont. Al-Jawami' qui sont connus, Sahih al-Bukhari, donc c'est le meilleur entre guillemets, puisque c'est le plus authentique. C'est un jami' puisqu'il a mis tous les chapitres, la Aqidah, la politesse, les histoires des compagnons, les histoires des prophètes, le fiqh, tout. Et en plus avec des titres de chapitres. On appelle ça Tarajim. C'est-à-dire un seul hadith, il peut le mettre en 10 ou 20 chapitres différents, mais à chaque fois il met un titre différent. Et ce titre, il t'explique quelque chose en fait. Il y a du fiqh dans ce titre. Il y a quoi comme autre jami'? Hein? Sahih Muslim aussi, c'est un jami'. Parce que ça commence par Kitab al-Iman, etc. Et le troisième jami', en fait, qui s'appelle jami' et qui est connu, c'est un jami' al-Sahih de al-Tirmidhi. Donc, des fois on l'appelle jami', des fois on dit Sunan al-Tirmidhi, rahimahullah, puisque al-Tirmidhi aussi. Et après, il y a Sunan. Sunan, c'est les Sunan d'Abu Daoud, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Et en vérité, aussi dedans, il y a tous les chapitres, mais c'est plus basé sur le fiqh, sur l'ahkam, sur les hadiths qui concernent l'ahkam. Donc il dit dans le hadith suivant: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. Ici il dit donc de Ibn Mas'ud radiallahu anhu qui dit: j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il lui a dit: quel est le plus grand des péchés? Et il lui a répondu: c'est que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Ensuite il lui a dit: ensuite, c'est-à-dire ensuite lequel? Il a dit que tu tues ton enfant par peur qu'il mange avec toi. Ensuite, il lui a répondu, c'est que tu fasses la fornication avec la femme de ton voisin. Et ça, c'est dans les deux sahih. Donc, il dit dans l'explication, ce hadith, il nous parle de trois choses qui mènent à la perdition. إحداها أن تجعلني الدن فهذا هو الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب وأكبر المعاصي ولا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة وذلك بالدخول بالإسلام وأما من مات على الشرك فهو مخلد في النار. Donc le premier c'est de mettre un égal à Allah et ça c'est le grand polythéisme ou le grand associationnisme الشرك الأكبر qui est le plus grand des péchés et la plus grande des désobéissances. Et celui qui le fait n'est pas pardonné, sauf s'il se repent, c'est-à-dire avant de mourir, et qu'il rentre dans l'islam à nouveau, ou qu'il rentre dans l'islam tout court. Et quant à celui qui meurt sur le shirk, celui-là, il est en enfer éternellement. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. Car Allah dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Et dans l'autre verset, il est dit, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes sont dans le feu de l'enfer éternellement. Et ceux-là sont les pires de la création. Et il y a beaucoup de textes dans le Coran et la Sunna sur cette question. Juste, on peut remarquer ici, pour vous souvenir quand on a fait les cours sur Kitab al-Tawhid par exemple. Regardez comment il lui a dit. C'est la réponse du prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le même minhaj dans la réponse que le Coran. Il lui a dit que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Et dans Surat al-Baqarah, c'est quoi le premier chapitre qui ordonne le tawhid ? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala min as-samaa'i ma'an. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Le premier verset qui ordonne le tawhid, si tu prends le Coran depuis le début, il dit ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux d'avant vous. C'est-à-dire c'est comme si le Coran toujours du début à la fin, il argumente pour prouver le tawhid dans l'adoration et le fait qu'Allah seul mérite l'adoration. Il dit aux gens, c'est lui seul qui vous a créé, et les gens ça ils le savent. Ils le savent par la fitra ou ils le savent par leur religion. Et donc, c'est comme s'il leur disait, puisque c'est lui seul qui vous a créé, comment vous pouvez lui associer quoi que ce soit. Donc dans Surat al-Baqarah, il dit, adorez votre Seigneur, donc, ou votre souverain, Rab, qui vous a créé ainsi que ceux d'avant vous, afin que vous ayez la taqwa. Et après, il cite, celui qui a fait pour vous de la terre un lit, et du ciel une construction, et qui a fait descendre l'eau, et qui en a sorti pour vous, des fruits comme subsistance pour vous. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Ne donnez pas donc des égaux à Allah alors que vous savez. Alors que vous savez quoi? Que vous savez tout ça, que c'est Allah qui a créé les cieux, la terre, etc. C'est dans Surat al-Baqarah, c'est le premier hizb, au bout de quelques pages. Le vers de Surat al-Baqarah, c'est dans les premières pages, je sais pas si c'est vrai. 23. Donc regardez, pareil ici, il lui a dit que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Ça, c'était une petite parenthèse. Il dit, la deuxième chose, il dit que tu tues ton enfant de peur qu'il ne mange avec toi. ويزيد الإثم ويتضاعف والعقاب إذا كان المقتول ذا رحم من القاتل ويتضاعف مرة أخرى حينما يكون الهدف هو قطع المقتول من رزق الله الذي أجري على يد القاتل ففيه نهاية الشح وغاية سوء الظن بالله تعالى ولذا قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Donc il dit, le fait de tuer ton enfant de peur qu'il ne mange avec toi. Il dit, le fait de tuer une âme qu'Allah a interdit, ça c'est au deuxième degré. Après l'associationnisme à Allah, le deuxième degré c'est de tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée. Et ça fait partie des choses qui font perdre, c'est-à-dire qui mènent à la perdition, pardon. et le péché il est encore pire et il se multiplie si celui que tu as tué il a un lien de parenté avec toi, et il se multiplie encore plus si le but dans le fait de tuer la personne c'était le risque, c'est-à-dire c'était il dit ici, c'est-à-dire de, comme il a dit ici, qu'il ne mange pas avec toi, qu'il n'est pas son risque, que toi tu profites de son risque entre guillemets. Donc en fait ce qu'il veut dire ici c'est que après l'associationnisme dans les degrés c'est le fait de tuer, et si dans le fait de tuer tu tues quelqu'un qui est parent avec toi, c'est encore pire. Mais si en plus, donc tu tues, et en plus c'est un parent avec toi, et en plus tu le tues parce que tu as peur pour le risque, eh ben c'est encore pire. Donc c'est-à-dire là c'est le plus haut degré, c'est le fait de tuer son enfant, donc il n'a rien de parent avec toi. Donc c'est un meurtre, en plus c'est ton enfant, et en plus tu le tues parce que tu as peur qu'il mange ce que toi tu manges. Et Allah il dit ça c'est l'extrême dans l'avarice. Et aussi dans le fait de penser du mal d'Allah, sous-dhanni billah. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans Surat al-Isra, ne tuez pas vos enfants de peur de la pauvreté, c'est nous qui subvenons à vos besoins ainsi qu'à eux. Et le fait de les tuer est certes un grand crime. Alaykoum salam. Ensuite il dit الثالثة أن تزاني حليلة جارك. La troisième c'est de faire la fornication avec la femme de ton voisin. Il dit الزنا هو الرتبة الثالثة بعظم الموبقات وشناعتها. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Donc au troisième degré, parmi les choses qui mènent à la perdition et dans leur laideur aussi, dans la laideur des péchés, c'est la fornication. Et Allah a dit, n'approchez pas la fornication, certes c'est un péché, fahisha. Fahisha c'est-à-dire un péché, yafhushu fin nafs, ou alors yadharu fuhshuhu. Fahisha c'est-à-dire c'est un péché qui est laid. C'est-à-dire l'être humain il ressent la laideur de ce péché. Donc c'est une fahisha et c'est un mauvais chemin.
ويعظم إثم هذه الموبقة إذا كانت المزني بها حليلة الجار.
Il dit ce péché il est encore plus grand quand celui avec laquelle, quand celle avec laquelle tu pratiques ce péché, c'est la femme de ton voisin.
الذي وصى الله تعالى رسوله على البر به والإحسان إليه وحسن صحبته وجواره.
Dont Allah nous a commandé ainsi que son messager d'être bon envers lui et la bienfaisance envers lui. Et d'être de bonne compagnie et de bon voisinage pour lui.
فكيف يكون الأمر إذا أفسد فراشه وانتهك حرمته وداس عرضه وخان جواره.
Donc qu'en est-il si أفسد فراشه, c'est-à-dire entre guillemets, c'est-à-dire s'il commet l'adultère avec sa femme et que انتهك حرمته, c'est-à-dire il a piétiné entre guillemets son honneur et les choses qui sont sacrées chez cette personne, et il a trahi le voisinage. Donc c'est-à-dire le péché il est encore plus grand que faire la fornication avec une femme quelconque.
Al hadith يدل على أن أعظم الذنوب هي الشرك بالله تعالى ثم قتل النفس التي حرم الله بغير حق ثم الزنا.
Donc le hadith il nous montre que les plus grands des péchés c'est d'associer à Allah, puis de tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée sans droit, puis la fornication.
قوله صلى الله عليه وسلم وهو خلقك هذا سياق تشبيع فإنه من أشبع الأشياء أن تقابل النعم عليك بالإساءة فكيف إذا كان المنعم هو صاحب النعم العظيمة والمنن الكبيرة التي أولها الإيجاد من العدم.
Il dit dans la phrase du prophète quand il lui a dit que tu mettes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Il dit ça c'est quelque chose pour insister. Il dit comment tu peux répondre à un bienfait par le mal. Il dit donc c'est incorrect. Et qu'en est-il si celui qui t'a fait ce bienfait, c'est Allah, celui qui a les grands bienfaits, les bienfaits qu'on ne peut même pas compter, dont le premier de ces bienfaits, c'est simplement le fait de t'avoir fait exister alors que tu n'existais pas. Hadith suivant, il dit... Attendez, je bois mon café. Hein ? Oui, bon, ça va. Qu'est-ce qu'elle marque ?
On a le droit de faire de la pub sur TikTok.
Donc le hadith suivant, il dit « وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قِيلَ وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dans ce hadith qui est dans les deux sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il fait partie des grands péchés que l'homme insulte ses propres parents. Qil, c'est-à-dire on a dit, quelqu'un a dit parmi les compagnons, et est-ce qu'un homme va insulter ses parents? Regardez, c'est-à-dire, ils ont été étonnés, comment quelqu'un il peut insulter ses parents? Il a répondu oui, il insulte le père de la personne, alors cet homme va insulter son père. Et il insulte sa mère, et donc celui-là va insulter sa mère. Ça c'est dans les deux sahih. Regardez déjà, avant qu'on rentre dans l'explication du hadith, qu'à l'époque, déjà pour eux, c'était comment c'était incroyable de penser que quelqu'un il pourrait insulter sa mère ou son père. Alors que maintenant c'est devenu, je ne vais pas dire que c'est normal, mais ça existe beaucoup. Donc il dit dans l'explication, تقدم بيان حقوق الوالدين ووجوب برهما والإحسان إليهما كما تقدم أن من أكبر الكبائر عقوقهما فقد قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إذ علمنا أن إذا علمنا أن شتمهما من أعظم المنكرات. Donc il dit, on a déjà parlé du droit des parents et qu'il est obligatoire d'être bienfaisant envers eux. Et Allah a dit, ne leur dis pas ouf et ne les repousse pas. Et donc le fait de les insulter, ça fait partie des plus grands des péchés. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والدي استغرب الصحابة رضي الله عنهم ذلك فقالوا للنبي وهل يسب الرجل والدي. Il dit donc, quand le prophète a dit, il fait partie des grands péchés qu'un homme insulte ses parents, les sahaba ils sont étonnés, ils ont dit, est-ce que quelqu'un va insulter ses parents? فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تسبب في شتمهما فكأنه شتمهما. Donc le prophète il les a informés, sallallahu alayhi wa sallam, que s'il cause le fait qu'on insulte ses parents, alors c'est comme si lui-même il les avait insultés. وَذَلِكَ بِأَنْ يَسُبَّ أَبَى الرَّجُلِ فَلِيُقَابِلَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِأَنْ يَسُبَّ أَبَاهُ فَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَسُبَّ أَبَاهُ مُبَاشِرَةً إِلَّا أَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي ذَلِكَ وَالْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ إِنَّ الْوَسَائِلَ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ. Il dit par exemple, donc c'est le fait qu'il insulte le père d'un homme, et cet homme il va lui répondre en insultant son père. Donc lui il n'a pas directement insulté son propre père, mais comme il a fait la cause pour que ça se fasse, c'est-à-dire il a causé le fait qu'on va insulter son père, il est considéré comme ayant insulté lui-même son père. Parce que la règle dans la religion, elle dit, les moyens ont les mêmes statuts que les al-maqasid, c'est-à-dire que les buts. C'est-à-dire, si tu as un moyen pour arriver à un but, si ce but il est halal, et ton moyen à la base il est halal, alors tu as le droit d'emprunter ce moyen. Si ton but il est haram, et tu fais quelque chose pour y arriver, ce que tu fais pour y arriver, lui-même il est haram, même si à la base il est simplement halal. Pourquoi il est haram? Parce que tu t'en sers pour arriver à quelque chose de haram. Donc il dit, الواجب على الإنسان الكف عن شتم الناس وشتم آبائهم لأن هذا هجر من القول محرم ولأنه سبب لأن يشتمه الناس ويشتم أباه معه بسببه. Donc il dit, ce qui est obligatoire c'est de ne pas insulter les gens et ne pas insulter les parents des gens, puisque c'est une parole interdite et c'est une cause pour que les gens insultent ses parents et que eux-mêmes s'insultent. Pardon, et qu'il insulte lui et qu'il insulte ses parents. الحديث فيه بيان حكم المتسبب من أنه يشارك المباشر في عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. Ici il dit, le hadith il nous montre que المتسبب, c'est-à-dire celui qui fait la cause, il a le même statut ou le même péché ou la même récompense, ça dépend si c'est du bien ou si c'est du mal, que celui qui est al-mubashir, celui qui fait directement l'acte. Vous avez compris? Si c'est dans le bien, alors il est avec lui dans le bien. Si c'est dans le mal, il est avec lui dans le mal. قال ابن بطال. En fait, il faudrait un exemple. Je ne sais pas s'il va en donner un, parce que là, comme ça, je n'en ai pas l'esprit. قال ابن بطال هذا الحديث أصل في سد الذرائع. Donc là, il cite une parole de Ibn Battal. Ibn Battal, c'est un savant du 5e siècle qui a écrit notamment un charh de Sahih al-Bukhari. C'est le plus vieux charh qui est édité à notre époque de Sahih al-Bukhari. Et ce savant, il était en Espagne. en Andalousie. Il dit ce hadith, c'est une base pour la règle de Saddu al-Dhara'i', entre guillemets, c'est fermer les portes du mal, fermer les chemins qui mènent au mal. Et on en retire que si ce que fait la personne, la conclusion, ce sera quelque chose de haram, alors son acte en lui-même, il est haram. وإن لم يقصد المحرم même si il n'a pas souhaité le haram dans sa niya. وعليه دل قوله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. Et c'est ce qu'indique la parole d'Allah, n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car ils insulteraient Allah par inimité et sans science. C'est-à-dire dans ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Ici Allah il nous interdit d'insulter les idoles des polythéistes. Pourtant, elles méritent d'être insultées. Il n'y a pas de mal à la base, c'est pas quelque chose de haram d'insulter les idoles, puisque c'est des fausses idoles, c'est des fausses divinités. C'est des tawarites. Et donc, pourquoi ici Allah il dit de ne pas les insulter? Il dit n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car ils insulteraient Allah. C'est-à-dire, ça causerait le fait que eux, ils insultent Allah Azza wa Jal. Donc, la chose qui est à la base halal, Allah il nous l'a interdite, parce que sa conclusion et ses conséquences, elles sont elles-mêmes haram. Donc la chose, elle devient haram elle-même. Vous avez compris? Donc ça, c'est de dhara'i'. Et ça, les musulmans, normalement, ils doivent y réfléchir dans tout. C'est-à-dire quand il se passe, par exemple, des choses contre les musulmans, ou par exemple les caricatures qu'il y a eu contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toutes les attaques qu'il y a contre l'islam, avant de réagir, les musulmans, ils doivent réfléchir aux conséquences que leurs actes vont avoir. Si ça va être pire, c'est-à-dire si ça va donner une image encore pire de l'islam, et les gens, ça va les amener encore plus à se moquer du prophète, ah ben c'est pas la peine de réagir de façon violente ou de façon, c'est-à-dire de sans sagesse, etc., avec des manifestations, tout ça. Parce que regardez la suite, qu'est-ce que ça a été. Maintenant, carrément, des films, ils sortent pour se moquer contre le Coran, etc. Ou s'ils sortent pas, ils essayent de les sortir. Comme par exemple en France, quand au Danemark ils ont fait les caricatures du prophète, avec tout le remue-ménage qu'il y a eu, eh ben en France, certains magazines, pour en remettre une couche, ils ont réédité les caricatures. Et d'autres à la télévision, sur Canal+, c'est comme des informations, mais pour rigoler, avec des marionnettes, ils ont fait carrément une marionnette du prophète. C'est 10 fois pire que des caricatures. Pourquoi? En réaction. Comme ils ont vu les musulmans, ils crient, ils ne sont pas contents, etc. Et bien ils se sont dit, on va leur rajouter une couche. Donc c'est pour ça, les musulmans, il faut toujours, l'islam y appelle à avoir la tête froide. C'est-à-dire, ce n'est pas une religion basée sur l'awatif. C'est-à-dire, les sentiments, les réactions comme ça, à chaud. Non, il faut toujours regarder loin, regarder les conséquences. Sinon, Allah, il aurait ordonné ou il aurait permis aux sahabas d'insulter nuit et jour les idoles des polythéistes, puisque c'est voulu et il n'y a rien de mal dedans. Mais regardez comment l'islam y voit loin, pour pas que en réaction ça augmente l'inimité des mécréants contre Allah et son messager. Il a dit ne l'insultez pas leurs idoles. Ensuite il dit ici قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسير هذه الآية. Donc là il cite la parole de عبد الرحمن السعدي. Donc dans son tafsir sur le verset qu'il a cité Ibn Battal juste avant. Naha Allah al-mu'minin 'an amrin kana ja'izan bal mashru'an fil asl wa huwa sabb alihati al-mushrikin. Donc Allah il a interdit les croyants, il leur a interdit quelque chose qui à la base était permis ou qui était même légiféré, c'est-à-dire demandé, qui est le fait d'insulter les idoles des polythéistes. Walakin lamma kana tariqan ila sabb al-mushrikin li rabbil 'alamin naha Allah 'an. Mais comme c'est un moyen qui mène à ce que les polythéistes insultent Allah, Allah a interdit cette chose. Donc ce verset est une preuve de la règle religieuse ou la règle de fiqh, qui est que les moyens, al-wasa'il, ont le même statut, c'est-à-dire halal ou haram ou wajib, que le but. فوسائل المحرم تكون محرمة ولو كانت جائزة. Donc tout ce qui mène, les moyens qui mènent au haram, sont eux-mêmes haram, même si à la base ils sont permis. Regardez encore une fois, on peut citer un autre exemple dans l'islam. Comment l'islam, il interdit les choses et il interdit les moyens qui y mènent, c'est justement quand on parlait de zina. Il a cité le verset qui dit « Wala taqrabu zina ». N'approchez pas, il n'a pas dit ne commettez pas zina, il n'a pas dit wala taznu, il a dit la taqrabu zina, n'approchez pas la fornication. Donc il nous a interdit la fornication, mais il nous a interdit tout ce qui est autour, comme le fait de s'isoler avec une femme, le fait que la femme elle voyage seule, il a ordonné à la femme de se couvrir, etc., etc. Toutes les règles que vous connaissez. Alors que si on regarde par exemple une société qui interdit l'adultère, ou qui considère que l'adultère c'est un crime dans le mariage et tout, mais ils interdisent pas tout ça. Ils interdisent pas que les hommes et les femmes ils se mélangent, ils interdisent pas à la femme de s'embellir, ils interdisent pas, etc., etc. Ben regardez le résultat. Si on regarde des sondages ou des trucs comme ça, le pourcentage il fait peur. Il est vertigineux d'adultère en France par exemple, ou en Europe. Ensuite, il dit أما الوسائل المذكورة في الحديث فهي وسائل محرمة ومقاصدها محرمة أيضا. Il dit donc quant aux moyens, aux wasa'il entre guillemets, qui sont cités dans le hadith, c'est-à-dire le fait d'insulter la personne, le père de la personne, il dit ça c'est des moyens qui sont haram. Et leur but il est, ou la chose, leur conséquence elle est haram. Donc déjà ce dont il a parlé dans le hadith, c'est déjà haram en soi-même, déjà d'insulter le père ou la mère d'une personne, et en plus la conséquence elle est haram. Donc regardez le comportement de l'islam, c'est-à-dire en plus ça c'est global, c'est aussi pour les non-musulmans, c'est-à-dire il n'était pas demandé ni autorisé d'insulter comme ça les non-musulmans, et encore moins leurs parents. Et malheureusement maintenant les jeunes des musulmans, c'est tous les jours, du matin au soir, qu'ils insultent les parents des gens. Et c'est devenu une habitude même entre eux. Donc ça, il faut le répandre. Ce hadith, il faut le répandre autour de nous. Il dit an Abi Ayyub radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Muttafaqun alayh. Toujours dans les deux sahih, le hadith Abu Ayyub al-Ansari. Qu'est-ce qu'il a comme particularité Abu Ayyub? À chaque fois j'aime bien rappeler ça. Abu Ayyub al-Ansari. Il y a quelque chose de spécial ce sahabi. Vous ne connaissez pas? Si, Abu Ayyub. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, comment il a fait pour choisir sa maison? C'est sa chamelle. Il a laissé sa chamelle choisir entre guillemets quoi. Et chez qui elle s'est mise? C'est devant Abu Ayyub, la maison d'Abu Ayyub. Donc c'est lui qui a hébergé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son arrivée à Médine. Et en fait, il a un lien de parenté du côté de la mère du prophète. Du côté des frères de la mère du prophète. C'est-à-dire c'est un parent éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque la mère du prophète, elle était de Médine. Pardon ? Dans la maison, là. Non, la mosquée, elle est... Si elle était, ouais, elle était construite, il fallait la construire encore. Quand il est arrivé tout de suite, il a d'abord fait la mosquée de Quba, après il est arrivé à Médine, et là il fallait un endroit où dormir, et il a dormi chez eux. Tout le monde l'invitait, tout le monde voulait qu'il dorme chez eux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc regardez la hikmah, pour vexer personne, il laisse la chamelle là où elle s'assoit, et il a dit c'est Allah qui la guide. Et c'est sûr qu'Allah il choisit pour son messager que les meilleurs des gens, et il a choisi Abu Ayyub al-Ansari. Donc dans le hadith il dit il n'est pas licite à un musulman d'esquiver ou yahjur, c'est-à-dire il évite d'éviter son frère plus de 3 nuits. Ils se rencontrent, celui-là se détourne et celui-là se détourne, mais le meilleur des deux est celui qui commence à dire le salam, c'est-à-dire le premier qui dira salam. Ça c'est dans les deux sahih. Il dit al-hajru huwa at-tark. Dans les définitions des mots, il dit al-hajr c'est le fait de délaisser quelque chose. Il dit wal murad an yatruka al-mu'minu kalama akhihi al-mu'min idha talaqaya wa yu'rid kull wahid minhumā 'an ṣāḥibi. Il dit ce qui est voulu par le hajr, c'est le fait de ne pas parler à son frère musulman, lorsqu'ils se rencontrent et que les deux ils se détournent quand ils se rencontrent. Donc il dit dans l'explication, للمسلم على المسلم حقوق كبيرة كثيرة جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le musulman a envers le musulman beaucoup de droits qui sont expliqués dans le Coran et la Sunna. وقد تتبعها الإمام الغزالي فجاء منها في الإحياء بطائفة طيبة منها. Il dit l'imam al-Ghazali, bon en fait Cheikh Abdullah al-Bessam, il a peut-être un petit peu exagéré en disant l'imam al-Ghazali. C'est-à-dire, souvent on a l'habitude, c'est parce que en fait les gens ils ont pris l'habitude de dire l'imam al-Ghazali, mais on ne peut pas, al-Ghazali certes c'est un savant, notamment dans le sur le fiqh, mais on ne peut pas qualifier d'imam quelqu'un comme Abu Hamid al-Ghazali, malgré sa science, parce qu'il y avait beaucoup de déviations, que ce soit dans la voie qu'il a empruntée ou dans sa aqida. Et il est passé par différentes étapes, si ce n'est que, on rapporte qu'à la fin de sa vie, il restait avec les gens du hadith, et il disait « je meurs avec la aqida de Ahmed ibn Hanbal ». C'est-à-dire, il y a plusieurs historiens qui ont rapporté qu'à la fin de sa vie, Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, il est revenu à la voie des salafs, et à la voie d'Ahl al-Hadith. Abu Hamid al-Ghazali, ouais, c'est ancien. Abu Hamid al-Ghazali, je crois, c'est le 6e siècle de l'islam. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est le 6e siècle. Et en fait, il a eu plusieurs étapes dans sa vie. Il a eu sa première étape où il était un entre guillemets, classique mutakallim. C'est-à-dire quelqu'un des gens de la spéculation. Mais il a eu un grand stade dans ça. Il s'était devenu une référence. Donc, dans la aqidah sharia, dans le fait de spéculer, la aqidah spéculatrice, quoi, qui est connue. Et dans le fiqh sur le madhab de l'imam Shafi'i et dans l'usul. Après, il a eu une période où il est, je pense. Je crois que c'est après ça il est passé plus par la philosophie, le falsafa. Après, il a eu une autre période où les gens ils l'ont plus vu. Il s'est isolé des gens, et là c'est plus sa période soufie. Et c'est de ça qu'est le résultat. Le livre, le résultat de cette période, c'est le livre notamment Ihya ul-Muddin. Donc Ihya ul-Muddin, c'est un livre dans son. C'est-à-dire comment le squelette du livre, il est magnifique. Dans le sens où il a fait le livre en quatre parties. Une partie sur les adorations, une partie sur al-mu'amalat, c'est-à-dire les relations sociales, une partie sur les choses qui vont sauver la personne, et une partie sur les choses qui font périr la personne. Et donc ça parle beaucoup des choses du cœur, des comportements, tout ça, mais le hadith, il est rempli d'empreintes, c'est-à-dire de soufisme, d'erreurs dans la aqidah, de hadith inventés. C'est-à-dire il ne différencie pas entre le hadith faible et inventé, etc. Donc en fait, il était tout simplement le fruit de l'environnement à l'époque, quoi. Mais il est rapporté. Donc là, comme ça, je n'arriverai pas à vous citer les références, si ce n'est que dans certains livres, si jamais une personne elle voudrait vraiment savoir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, ils aiment bien lire al-Ghazali. C'est-à-dire à la maison, il y a tout ce qu'il faut dans les livres et tout, les références. Comme quoi, ils disent que Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, à la fin de sa vie, il s'est mis à fréquenter plus Ahlul Hadith et il s'est retourné vers la Aqidah Salafiyya, c'est-à-dire la Aqidah Ahlul Sunnah, notamment sur les noms et les attributs d'Allah, etc. En tout cas, son livre Al-Ihya, c'est-à-dire ici, par exemple, il cite Al-Ihya, mais des savants comme Abdullah Al-Bassam, eux, ils peuvent se permettre de prendre des livres aussi connus que l'Ihya et en tirer des bénéfices. Puisqu'on ne peut pas dire que, il faut être honnête, on ne peut pas dire qu'un livre comme Al-Ihya ou n'importe quel livre qui a été critiqué, des gens qui sont des gens de science, on ne peut pas dire qu'ils sont faux de A à Z. Forcément, il y a des bénéfices dedans. Mais c'est à qui d'en retirer ces bénéfices? C'est pas à toi et moi, c'est aux gens de science. Et Abdullah al-Bassam, certes, lui, il peut se permettre. Donc des fois, c'est pour ça, dans le livre, des fois, il rapporte des paroles de al-Ghazali, notamment. Donc là, il dit que al-Ghazali, rahimahullah, il a cherché ces différents droits, les droits du musulman vers le musulman, et il dit, il les a cités dans son livre justement Al-Ihya. Et il dit, il en a rapporté une bonne partie. Il dit, أن تسلم عليه إذا لقيته وتجيبه إذا دعاك وتعوده إذا مريض وتشهد جنازته إذا مات. Donc il dit notamment le fait que tu le salues quand tu le rencontres, que tu répondes à son invitation, que tu le visites quand il est malade, que tu assistes à son convoi funéraire, وتبرق سمعه وتنصح له إذا استنصحك. Notamment que tu lui donnes le conseil quand il te conseille, que quand il est dans, c'est-à-dire quand il est pas là, c'est-à-dire tu le protèges entre guillemets, tu protèges que ce soit les choses qui sont restées chez lui par exemple, ou tu protèges son honneur, c'est-à-dire tu parles pas sur lui par exemple, وتحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. Tu aimes pour lui ce que tu aimes pour toi-même et tu détestes pour lui ce que tu détestes pour toi-même. وهذه الخصال الطيبة مستقاة من أحاديث صحيحة. Il dit et tous ces bons caractères sont tirés de différents hadiths. إذا كانت هذه بعض الحقوق التي حث عليها دينك الحنيف فكيف يجمل بك أن تهجره وتقاطعه وتعرض عنه. لا شك أن هذا خلق مناف لآداب الإسلام كل المنافات. Il dit si ce sont ça les, si c'est ça les droits entre les frères qu'a imposé ta religion, qui est la religion du monothéisme, alors qu'en est-il si tu évites ton frère et tu coupes les liens avec lui et tu te détournes de lui. Il dit sans aucun doute, ça c'est un comportement qui est contraire aux politesses et au comportement de l'islam. يحرم هجر المسلم أكثر من ثلاثة أيام فلا يحل أن يزاد عليها. Il dit donc qu'il est haram, interdit d'éviter son frère pendant plus de 3 jours. Donc il n'est pas licite donc de rajouter à plus de 3 jours si tu veux éviter ton frère. Hein? 56 minutes. On finit juste le hadith là, puis après on fait une pause. Donc il dit قال في شرح الإقناع والهجر المنهي عنه يزول بالسلام. Il dit al-hajar. Donc al-hajar, c'est le fait d'éviter quelqu'un. En ne pas confondre avec al-hijra. Il y en a des fois quand ils te parlent d'esquiver quelqu'un, d'éviter quelqu'un, ils disent ouais, il m'a fait hijra. Non, c'est pas hijra. Hijra, c'est quand tu pars. Ça, c'est al-hajar. Et al-hajar, le verbe, c'est yahjuru. Alors que al-hijra, le verbe, c'est yuhajiru. C'est pas la même chose. C'est la même racine, mais c'est pas la même chose. Donc il dit le hajar qui est interdit, il s'arrête par le salam. C'est-à-dire, pour arrêter le hajar, tu dis salam. لأنه سبب التحاب للخير فيقطع الهجر. روي مرفوعا السلام يقطع الهجران. Il dit, puisque c'est une cause pour s'entraîner dans le bien, et donc ça coupe le hajar. Et il dit, il a été rapporté du prophète qu'il a dit, donc là il ne met pas la référence, السلام coupe le hajar, donc le fait de s'éviter. ويدل على ما جاء بالحديث يتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. Il y a une preuve à ça dans le hadith qu'on vient de lire, puisqu'il a dit le meilleur d'entre eux, c'est celui qui commence par le salam. C'est-à-dire, il se parle plus, il s'évite. Le meilleur, c'est celui qui dira à l'autre salam en premier. C'est-à-dire, on pourrait en comprendre que c'est ça qui coupe al-hajr. وزوال الهجر بالسلام هو مذهب جمهور العلماء. Et le fait de dire que al-hajr, ça s'arrête avec le fait de dire salam alaykum, c'est l'opinion de la majorité des ulama. النفس البشرية تحب التشفي والانتقام فأعطاها الشارع الحكيم مدة ثلاثة أيام تقضي وطرها ممن أغضبها ولم يزيد على ذلك. Regardez ici la sagesse qui retire du hadith. Il dit l'âme humaine, elle aime se venger, donc Allah il lui a laissé une durée de 3 jours pour entre guillemets dégager sa rancune envers la personne qui lui a fait du mal ou qui l'a mise en colère, mais Il a ordonné de ne pas rajouter au-delà de 3 jours. C'est-à-dire, regardez comment, et c'est normal puisque l'islam vient d'Allah, c'est lui qui a créé les êtres humains, et il sait que l'être humain, il a de la rancune. Et il a besoin de soulager cette rancune. Donc Allah, il a mis quand même un petit délai pour que tu puisses soulager cette rancune, ces 3 jours, où tu peux esquiver et éviter cette personne qui t'a mise en colère. Wa fil hadith, fadilatu alladhi yabda'u sahibahu bis salam. ويزيل ما بينهما من التهاجر والتقاطع. Il dit le hadith, il montre le mérite de celui qui dit en premier le salam à l'autre et qui enlève donc ce hajar, التهاجر, c'est-à-dire le fait de s'éviter qui est entre eux. ذلك أنه استطاع أن يتغلب على نفسه الأمارة بالسوء. Puisqu'il a réussi à vaincre et à prendre le dessus sur son âme, cette âme qui insuffle le mal. فيسامح صاحبه ويصافيه. Donc il excuse son frère. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Mais dans le verset il est dit la bonne action n'est pas comme la mauvaise action. Repousse par la meilleure des façons. Et celui avec qui tu as une inimité deviendra comme un ami intime. Et cela n'est donné qu'à ceux qui patientent, et cela n'est donné qu'à ceux qui ont reçu une grande part. C'est-à-dire quelque chose de grand. C'est-à-dire ici, Allah il ordonne de repousser le mal par le bien. Quand tu fais ça, ça ramène la réconciliation entre les gens. Et pour... parce qu'ils ont traduit maintenant Ibn Kathir en français, je vous invite à regarder, puisqu'on a fait ça aujourd'hui, dans l'introduction, le tafsir de l'isti'adha, le fait de dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Dedans, Ibn Kathir, rahimahullah, il ramène une faïda énorme. Il dit, quand on regarde dans le Coran, à chaque fois, Allah, quand il nous parle des êtres humains, il dit de pardonner, de ne pas répondre par le mal, de laisser tomber, entre guillemets, et que ça va ramener la réconciliation. Comme dans ce, notamment ici, de ce verset-là, puis d'autres versets encore. Alors que quand il parle du shaitan, à aucun moment Allah il dit pardonne ou laisse tomber, etc. Quand c'est question du shaitan, toujours Allah il nous dit de demander à Allah la protection contre lui, parce que c'est un ennemi, etc. etc. Pourquoi ? Il dit parce que le diable et l'être humain, ils ne sont pas de la même nature. L'être humain, il est fait d'une nature de sorte que, quand on lui répond par la clémence, il se calme. Et ça l'amène à aimer la personne. C'est-à-dire, quand on lui fait du bien, il a tendance à s'adoucir et à aimer celui qui lui a fait du bien. Alors que le shaitan, le diable, lui, il ne t'aime pas, et tu peux répondre par le bien, ça ne va pas changer. Il n'a pas cette nature douce comme il a l'être humain, il n'y a pas d'impact sur lui, quand tu pardonnes, la douceur, etc., ça n'a pas d'impact sur lui. Lui, il ne comprend pas ça. Lui, c'est que de la haine, de la violence, etc. Et ça ne se calme pas. Il y a la rancune. Alors que l'être humain, sa rancune, elle se calme. Et ça, vous regarderez, Inch'Allah, puisque ceux qui n'ont pas l'arabe, il s'est traduit en français, au début de Tafsir Ibn Kathir. À la fin, il dit ici, « Wa qala fi sharh manzumati al-adab, man a'lana al-ma'asi, sawa'un akanat fi'aliyya, أو قولية أو اعتقادية فهجره سنة يثاب الإنسان على فعلها حيث كان الهجر لله تعالى غضبا لارتكاب معاصيه أو لإهمال أوامره. Là ici c'est une parole de Safarini qui dit: celui qui extériorise les péchés et les désobéissances, que ce soit des désobéissances dans les actes ou dans les paroles ou dans la aqida, c'est-à-dire comme la bid'a, il dit alors le fait de l'éviter, c'est une sunna. Et l'être humain, il sera récompensé pour cette sunna. Puisque, al-hajar, le fait d'éviter quelqu'un pour Allah, c'est et par colère quand on se met, quand on lui désobéit, ou quand on néglige ses obligations. Donc ça, c'est une sunna. Bien sûr, ici, Cheikh, il n'en parle pas, mais cette sunna, elle a un contexte. Donc les shuyukh, toujours, ils disent al-hajar. Il faut calculer toujours ses conséquences. C'est-à-dire, Al-Hajar, on doit regarder le contexte de l'époque. C'est-à-dire, des fois, vous lisez des textes des salafs, par exemple, quand ils parlent d'Al-Jahmiya, ou Al-Qadariya, ou bien Al-Khawarij, et, par exemple, ils disaient, un tel parmi les salafs, quand il croisait un Mubtadi, il changeait de trottoir. Ou l'autre, il disait que, par exemple, si je suis dans un enclos avec des singes et des porcs, c'est mieux pour moi que d'être avec un innovateur. Ou l'autre, il disait, je préfère que mon fils il soit avec les gens du fisc en train de boire et de jouer au jeu de hasard que d'être avec les innovateurs. Tout ça, le fond de ces paroles, elles sont vraies. Puisque, par exemple, en l'occurrence, il vaut mieux faire des péchés que tomber dans la bid'a. Mais ces paroles, elles ont un contexte. Ceux qui ont dit ça, ils vivaient dans les trois premiers siècles de l'islam, où la sunna, elle était majoritaire. Et les innovations, elles étaient vraiment nouvelles. Nous, on est 1400 ans après ça. Les innovations, elles ont 1000 années d'implantation dans les pays musulmans, donc toi tu peux pas venir, et la sunna maintenant elle est étrangère, et encore pire, nous on est dans un pays non musulman, donc déjà l'islam il est étranger, les musulmans ou les gens qui se réclament de l'islam ils sont loin de l'islam, et ceux qui essaient de s'accrocher à l'islam ils tombent pas forcément sur la sunna, ils vont tomber sur la première chose qu'ils trouvent, ça peut être tel mouvement ou tel mouvement, et lui il sait pas, donc il s'attache, il veut se mettre dans la religion, il va s'attacher à la première chose qu'il trouve. Est-ce qu'il fait partie de la sagesse qu'une personne qui fumait son joint dans l'entrée et qui vendait sa drogue ou qui faisait pas sa salade et qui sortait et que ça fait le mouhim, il essaye de s'accrocher à la religion et il tombe dans tel ou tel mouvement qui est à la base un mouvement innovateur. Est-ce que c'est une hikmah de l'hajar, de l'esquiver, de pas lui parler, de lui faire une tête pas possible? Non, parce que lui il sait pas. Ça, c'est que lui, mesquine, il veut juste se mettre dans la religion. Mais il est mal tombé. Et on lui a embelli les choses. Donc, est-ce que toi, déjà que la sunna, elle n'est pas facile à trouver et elle est rare, si toi, en plus, tu lui fais le hajar, ça veut dire que tu l'esquives, tu coupes les liens avec lui, alors encore pire, c'est-à-dire il va, ça ne va pas lui donner envie et ça ne va pas lui donner accès à la sunna. Maintenant, un da'i, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît la vérité et qui est comme à l'exemple des juifs, c'est-à-dire des rabbins parmi les juifs qu'Allah nous a cités dans le Coran, qui connaissent la vérité mais qui la cachent et qui appellent à la bid'a et qui a une tête dans la bid'a, là sans aucun doute, il peut faire partie, même dans un contexte comme le nôtre, de faire la hajar pour montrer notre désapprobation à cette personne de ce qu'il fait. Mais une personne, elle ne sait rien, tu lui as jamais parlé. Ou alors quand tu lui as parlé, c'est pour dire « Yahri hein, » comme ils font les jeunes maintenant, comme si la personne, elle savait tout, et comme si c'était évident, et comme si toi, machallah, t'étais né avec une barbe. Et toi, tu viens et tu lui parles comme ça, avec sans hikma, sans science, sans rien du tout, et tu dis « ça y est, je lui ai parlé, je peux lui faire la hajar ». Quel hajar tu vas lui faire? Et à quoi il va ramener? Et c'est pour ça que Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, dans une de ses paroles, il disait que notre époque, c'est une époque, c'est pas l'époque de la dureté, c'est l'époque de la douceur. Parce que comme l'islam est étranger, le fait de faire la hajar, ça ne va pas ramener du bien. Or, dans la hajar, ce qui est voulu, c'est notamment de se protéger, mais aussi de ramener le bien à la personne. C'est-à-dire, regardez l'exemple des trois compagnons qui s'étaient détournés du djihad. Vous connaissez l'histoire, même Allah il les a cités à la fin de Surah Al-Tawbah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a fait la hajar, quelle a été la conclusion? Ils se sont repentis. Puisqu'ils voient le prophète et les compagnons qui sont contre eux, et eux c'est des croyants sincères, ils aiment Allah et son messager, donc qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent on a fauté. Mais maintenant que toi, qui es tout seul à pratiquer ta religion, peut-être conformément à la sunna, dans un environnement à majorité, soit dans la mécréance, soit dans la désobéissance, soit dans l'innovation, et toi tout seul, tu fais le hajar, quelle influence ça a sur la personne? La personne, elle se sent pas fautive. Tout ce qu'elle va sortir, c'est que toi, t'es un fou. Elle va dire, ouais, lui, il s'écarte des musulmans, il est bizarre, il veut pas nous parler, etc. Et donc, t'as coupé l'accès à la sunna en faisant ça. Donc ça, c'est la parenthèse. Après, il dit, قال الإمام أحمد إذا علم أنه مقيم على معصية لم يأثم إن جافاه حتى يرجع. Il dit, s'il sait que cette personne commet un péché, alors il ne commet pas de péché si il a جافاه, c'est-à-dire s'il se comporte sèchement avec lui, jusqu'à ce qu'il revienne de son péché. وقد جف النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه وأمر الصحابة بهجرهم 50 يوما. Et le prophète avait fait ça avec Ka'b et ses deux compagnons, et il leur a fait le hajar pendant 50 jours où personne ne leur parlait. Et ça a eu un effet. Ça, par contre, c'est possible. Par exemple, même dans notre contexte, ça c'est possible au sein de la famille, par exemple. Puisque des fois, au sein de la famille, tu peux avoir une influence. Par exemple, ton petit frère, pour lui, t'es un héros. Par exemple. Donc toi, tu lui as parlé, etc. Et tu essaies différentes politiques pour le ramener à la religion. Des fois, il est possible que le fait d'être sec avec lui, il va commencer à se poser des questions. Pourquoi? Parce que déjà, tu lui as expliqué les choses. Et parce que tu as une intimité avec lui. Tu n'es pas un étranger pour lui. C'est-à-dire que tu pèses pour lui dans son cœur. Tu as une importance. Donc, peut-être que le fait de... Par exemple, il voit que tu es moins gentil, mais c'est-à-dire tu lui parles moins, tu t'écartes de lui, et tu lui dis c'est parce que j'apprécie pas ce que tu fais. Là, ça peut. Pourquoi? Parce que là, tu vois que tu as une influence sur lui. Mais sinon, généralement, dans notre environnement, nous, on n'a pas d'influence sur les personnes. Donc, on va s'arrêter là, on fait une pause et on reprend dans, je sais pas. C'est à quelle heure, là, Assad? Hein? 30. Donc, à 4h30, Inch'Allah. Dans 20 minutes, quoi.